cadre des élections législatives anticipées qui arrivent, nous avons souhaité réaliser des interviews de chacun des candidats pour la première circonscription de Corrèze. Nous avons fait comme nous avons pu, dans le temps qui nous était imparti, comme les candidats eux-mêmes. Il y a donc des différences de qualité sonore, mais nous avons essayé tout de même d'être le plus juste possible en termes de temps et de sujets. Et nous espérons néanmoins que ces interviews vous aideront à y voir plus clair. Francis Dubois, candidat du Courage.
Bonjour Francis Dubois.
Bonjour.
Alors vous êtes député sortant de la première circonscription de la Corrèze, donc Tulucel. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur les derniers événements donc au niveau des Républicains? Tous les partis ont un peu eu des explosions ou des tensions. Votre parti n'a pas été en reste. Donc vous êtes beaucoup à être parti des Républicains. C'est votre cas, et vous êtes sous quelle bannière actuellement, pour que les gens sachent à peu près où on en est?
Oui, moi je suis le député sortant qui a travaillé pendant 2 années pour porter la voix des Corréziens et des Corréziennes et porter la voix de la Corrèze, avec mon ami Aurélien Pradier depuis déjà 6 mois. On voyait bien ce qui se préparait au niveau national et nous souhaitions faire prendre place à une droite républicaine et indépendante, une droite utile pour vivre en démocratie apaisée. Et nul ne peut trouver son chemin sans courage et volonté. Et nous avons décidé, et Aurélien Pradier a créé ce parti politique qui s'appelle Du Courage, point d'exclamation. Et je porte la bannière de ce parti politique qui est donc ce parti d'une droite républicaine et indépendante et utile à notre pays.
Donc on peut dire que vous avez refondé l'aile gauche des Républicains, pour clarifier, pour simplifier?
Je ne pense pas qu'on puisse le dire comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de cette droite républicaine, cette droite humaniste et sociale, mais qui est contre l'assistanat, et contre les inégalités, et je pense que ces choses-là n'appartiennent pas à la gauche, et je pense que on peut être à droite et partageur.
Alors justement sur les inégalités, moi je vous propose qu'on parle un peu de pauvreté, parce que par exemple 15% des Corréziens, et même des gens au niveau national, vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 990 euros par mois, et même jusqu'à entre 20 et 25% dans le Limousin pour les moins de 30 ans. Est-ce que vous comptez faire quelque chose là-dessus? Parce que c'est quand même une grosse attente des personnes concernées.
Oui, le sujet majeur aujourd'hui est le pouvoir d'achat. Ce pouvoir d'achat, la rémunération du travail, ça fait des années. Moi, j'étais président d'intercommunalité, maire, avec des salaires même... On n'arrivait pas à trouver certains salariés dans des grades de techniciens sur les salaires. Et on était obligé d'externaliser la prestation. Donc il faut donc un salaire qui rémunère, qui permette aux salariés, aux citoyens, de vivre dignement. Il faut, moi je le dis depuis longtemps, il faut effacer la CSG et le CRDS de la feuille de paye sur les cotisations salariales. Je vous rappelle simplement que si on efface la CSG et le CRDS de la feuille de paye, on ramène net à un SMIC 150 euros par mois. Je vous comparer à un salaire, par exemple, d'infirmière qui est 2 fois le SMIC, ça fait 300 euros net par mois. Vous vous rendez compte, 300 euros net par mois. Ça permet de payer des factures, ça permet de vivre dignement. Donc après, il faut effectivement que l'État dépense moins pour qu'il y ait moins de contributions salariales sur cette feuille de paye. Alors ensuite, il faut traiter les problèmes des énergies, l'électricité, l'eau, qui sont des sujets majeurs.
Qui vont encore augmenter de
10%. En plus avec les changements climatiques. Aujourd'hui, ça va réaugmenter de 10%. Pourquoi? On nous prend le véhicule tout électrique. On fait des choix politiques que je veux entendre sur le respect de la planète. Mais de l'autre côté, c'est TICPE sur le carburant. Il ne faut pas se leurrer demain. Pourquoi aujourd'hui, elle augmente l'électricité de 11,7% à partir du 1er juin? Tout simplement parce que c'est la TICPE électrique. Et le gouvernement ne peut plus se comporter de cette façon-là. Pour relancer, donc il faut relancer l'hydroélectricité, et notamment en Corrèze, c'est l'équivalent de trois tranches nucléaires. Il faut relancer les chantiers du nucléaire. La seule façon que l'électricité baisse, que les gens retrouvent un pouvoir d'achat, il faut relancer donc, et faire une loi de programmation et de planification des énergies. Il faut traiter ces problèmes. Il ne faut pas faire que de la communication, il faut les traiter. C'est des chantiers longs en plus. Donc on prend du retard, il faut y aller et il faut considérer nos citoyens. Il faut qu'ils puissent vivre dignement, vous avez raison. C'est la seule façon d'avoir des rémunérations qui permettent aux gens de vivre dignement. C'est la seule façon pour moi de respecter, de considérer les Corréziens et les Corréziennes.
Et au-delà du niveau au-delà d'augmentation des salaires, il y a aussi l'accès au logement, le droit au logement, l'accès et à l'emploi. Où est-ce que vous vous positionnez par rapport aux autres candidats là-dessus ?
Sur cette affaire, aujourd'hui, il faut reprendre cette histoire de prêt à taux zéro. Il faut que les gens puissent avoir une accessibilité à la propriété. On le voit, les retraités aujourd'hui, pourquoi ils arrivent à s'en sortir ? C'est pas parce qu'ils ont un niveau de retraite qui est suffisant. C'est parce que la plupart, en Corrèze, ont accédé à la propriété. Il faut permettre à tout le monde d'accéder à la propriété. Pour ça, il y a un outil qui est extrêmement efficient, c'est le prêt à taux zéro. Aujourd'hui, il a été conditionné à des conditions de ressources. Non, il faut savoir ce qu'on veut, où on veut que les gens accèdent à la propriété ou pas. Mais ça, c'est des leviers importants. Pareil, il faut arrêter de communiquer à tout niveau. Il faut sortir de cette communication. Il faut des actes. Il faut qu'on travaille à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on arrête de faire de la politique politicienne. Il faut travailler et rendre à nos concitoyens ce qu'on leur doit pour qu'ils arrêtent d'être en colère, et notamment en colère dans leur vote. Il faut reparler à toutes les classes populaires. Il faut faire que les classes populaires et que tout le monde puisse s'en sortir. Il faut aussi, certainement, partager.
Partager les richesses.
Partager les richesses, un certain niveau de richesse. Ford, en Amérique, sur les rémunérations, était sur une échelle de 1 à 50. Je crois qu'on le voit trop souvent aujourd'hui, des revenus qui nous dépassent. De certains et d'autres qui n'arrivent même pas, en travaillant, à pouvoir se loger, à pouvoir manger correctement, amener même leurs enfants à vacances, prendre de certains moments de détente. Donc c'est plus entendable. Il faut arrêter cette colère. Si on veut vivre dans une démocratie apaisée, il faut effacer cette colère des personnes. Il faut avoir le courage politique de prendre des actes et de faire que les gens arrêtent d'être en colère.
Et au niveau des personnes en colère, il y a surtout les agriculteurs dont on parle pas mal ces derniers temps. Là, ils sont encore en manifestation parce que ça fait 2 mois qu'ils attendent les aides de la PAC. Si vous êtes à l'Assemblée nationale, est-ce que vous défendrez, par exemple, l'augmentation des revenus agricoles et de quelle manière ?
Ben, je les ai défendus sur 39 heures de travail en commission des affaires économiques sur la loi d'orientation agricole, sur 65 heures de travail jusqu'à 2 heures du matin et samedi compris récemment sur cette loi d'orientation agricole. Malheureusement, cette dissolution, elle est stoppée. J'avais une mesure extrêmement simple, ces affaires de simplification. Aujourd'hui, pareil, du courage politique. Pour éviter toutes ces surtranspositions normatives, réglementaires, environnementales à la française, on est au sein de l'Union européenne. Sur une question d'actualité à Gabriel Attal, au Premier ministre, il me répondait que après une semaine de recherche, en France, nous avons créé 287 normes de surtransposition en plus des normes européennes. C'est inacceptable. Ça, par décret, du courage politique, on prend le décret, les 287 normes de surtransposition, elles tombent le lendemain du décret. Je vous prends un exemple de ces normes de surtransposition. sur le traitement de la pomme, le produit utilisé, la matière active en Europe, donc autorisé en Europe, interdit en France. Ça oblige 11 traitements en France, avec des conflits d'usage. Parce que quand vous sortez deux fois avec un produit européen utilisé, et quand vous sortez 11 fois avec le nouveau produit réglementé par la France, et seulement par la France, plus le coût que ça impose, c'est 100 euros par hectare, vous vous retrouvez à baisser le revenu des agriculteurs, 900 euros de traitement supplémentaire sur un hectare. Vous vous retrouvez à faire que des conflits d'usage, parce que 11 traitements au lieu de 2, je pense que malgré tout, c'est plus dangereux. On se retrouve à ce que, en plus, moins de production, parce que les traitements ne sont pas efficaces, on traite 11 fois, moins de production. Et nous nous retrouvons ensuite derrière avec un prix et de la concurrence déloyale avec la Pologne qui produit de la pomme qui est bien moins chère que la pomme française. Et on se retrouve à perdre les marchés, parce qu'en plus, après, sur des marchés, notamment dans les cantines scolaires, il faut un code des marchés publics européens, et on se retrouve bloqué, parce qu'on a le critère prix qui bloque, qui est bloquant, et les cantines scolaires, les EHPAD, nos enfants, nos seniors, sont obligés de manger cette pomme européenne, et on ne peut même plus manger la pomme française. Donc c'est de la concurrence déloyale. Donc vous voyez que pour effacer la colère des agriculteurs, oui, simplement des décrets ministériels qui ne coûtent pas un euro à la France, pas un euro de dépenses publiques.
Et au niveau des traités de libre-échange qui étaient dénoncés par les agriculteurs, est-ce que vous, si vous arrivez au pouvoir, vous aurez une influence là-dessus ?
Eh bien, c'est une excellente question, parce que dans la loi d'orientation agricole, contre l'avis du gouvernement, j'ai fait passer un amendement qui traite la concurrence déloyale, à la fois sur l'approvisionnement du marché de l'Union européenne et à la fois sur les traités de libre-échange. Donc dans la loi agricole aujourd'hui, moi je suis en colère qu'elle ne puisse pas aller plus loin, parce qu'à l'article 1, votre député de la Corrèze a fait passer un amendement qui interdit la concurrence déloyale dans l'approvisionnement du marché de l'Union européenne et dans les traités de libre-échange. Donc moi je souhaite que cette loi vive, même si elle n'est pas assez complète, il manque énormément de choses, notamment le volet fiscal. Mais vous voyez que cette histoire de concurrence déloyale, c'est la première fois qu'elle est inscrite au sein d'une loi d'orientation et d'avenir agricole. Donc vous voyez qu'un député corrézien courageux suffit, il n'y a pas besoin d'être un grand politicien reconnu nationalement pour faire passer des choses qui sont extrêmement importantes pour votre agriculture, pour l'artisanat, pour le commerce.
Et alors, je propose qu'on vienne sur le volet plutôt environnemental, quand même lié à l'agriculture, et ouais, notamment une des formes d'agriculture qui est très développée en Corrèze et dans le Limousin, c'est l'agroforesterie, et c'est un enjeu qui paraît majeur pour les habitants du coin. Vous, qu'est-ce que vous comptez faire, par exemple, pour limiter les coupes rases ou ce genre de choses, les réguler, en tout cas, ou réguler, par exemple, des entreprises comme Fargebois qui ont un impact assez immédiat sur l'environnement. Comment on fait pour trouver un juste milieu pour garder une industrie et ne pas tout détruire, quoi.
Alors, sur l'exploitation forestière, il y a franchement deux axes. Il y a, et je crois que là, il ne faut pas se tromper, il y a deux essences. Il y a les résineux et les feuillus. Les résineux, et moi je l'explique simplement, c'est du grand maraîchage. C'est-à-dire qu'un résineux, il est planté pour être coupé et en coupe rase et être replanté. Et d'ailleurs, il faut éviter les gros bois. On a un problème aujourd'hui en Corrèze, déjà des Douglas, qui sont sur des fûts trop importants, qui ne peuvent pas être exploités en Syrie, et qui, par exemple, assèchent nos sols. Donc un résineux, je le répète, c'est du grand maraîchage. Il faut couper, il faut replanter. Mon grand-père disait, qui était menuisier ébéniste, il ne faut pas avoir peur de couper un arbre, mais quand on coupe un arbre, il faut en replanter un autre. C'est simplement le bon sens paysan du Corrézien. Aujourd'hui, on voit bien que sur ces coupes rases de résineux, les exploitants forestiers ont compris, Ils ne replantent pas que du résineux. Ils plantent autant de, beaucoup plus de feuillus qu'avant. Et c'est très bien. Du merisier, du chêne. Et c'est ce qu'il faut tendre. Il faut vraiment une exploitation. Il y a une économie forestière. Il faut savoir la sauvegarder. Il ne faut pas mélanger les choses entre une exploitante du résineux comme Fargebois, qui ne traite que du résineux. Et j'avais demandé à Fargebois, justement, puisqu'en tant que président d'intercommunalité, de sortir le ratio. Fargebois, une fois son usine implantée, s'ils y arrivent, ils traiteront 30% de la croissance annuelle des résineux. Donc vous voyez, quand on parle de déforestation, on va être sérieux, 30% de la croissance annuelle des résineux. Donc vous voyez qu'il reste encore 70% de la croissance annuelle des résineux qui n'est pas traitée dans l'exploitation forestière et qu'il faudra qu'elle soit traitée parce que sinon, on asséchera les sols avec des résineux et des gros fûts qui pompent donc trop d'eau dans nos sols. Donc il faut une exploitation forestière, comme en Corrèze on sait faire sur l'agroforesterie, sur l'agroécologie, sur l'agriculture biologique. En Corrèze, on est très très proche de l'agriculture biologique, dans toutes les productions. Il faut aujourd'hui y aller de plus en plus, il faut qu'il y ait le marché en face, mais notre agriculture corrézienne, on a su la préserver. Elle est productive, elle est d'excellence et elle est durable. Donc je pense que l'agriculture corrézienne, c'est ce que j'ai défendu à l'Assemblée nationale, elle se doit d'être dupliquée. L'agriculture corrézienne, elle n'est pas industrielle. C'est vraiment une agriculture d'artisan et qui est productive. Avec la complémentarité de l'agriculture biologique, on a beaucoup d'agriculteurs biologiques en agriculture bio. Donc l'agriculture corrézienne, elle est pour moi exemplaire. Il faut continuer.
Au niveau de Fargebois, on peut pas vraiment dire que c'est non plus de l'agriculture bio ou comment dire. C'est pas forcément quelque chose de. C'est industriel en fait, Fargebois. Il faut le reconnaître.
Oui, mais Fargebois, c'est de l'exploitation forestière. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs un problème. C'est-à-dire que les exploitants forestiers, vous le direz, aujourd'hui, ils sont ni dans l'agriculture, ni dans l'économie. Ça leur pose problème parce qu'en tant que président d'intercommunalité, on ne savait pas comment aller les aider dans les nouvelles installations et nouvelles activités parce qu'ils ne sont ni dans l'un ni dans l'autre. Alors, ne me mettez pas Fargebois dans l'agriculture parce que l'exploitation forestière, aujourd'hui, et entre les deux, et d'ailleurs, il y a à définir réellement est-ce qu'ils sont dans l'économie et à quelle chambre consulaire ils appartiennent, parce que je vous dis, à chaque fois, on ne sait jamais trop les classer. Fargebois, aujourd'hui, effectivement, c'est de l'industrie, donc il faut qu'il soit classé, effectivement, dans l'industrie, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'exploitation forestière, il n'y a pas d'exploitation forestière bio. C'est l'agriculture qui est bio, c'est l'élevage, c'est le maraîchage, c'est, même si je vous ai dit tout à l'heure, l'exploitation des résineux, c'est du grand maraîchage, mais il n'y a pas d'agriculture bio dans l'exploitation forestière.
Mais alors, l'enjeu qu'il y a autour de la syrifage et qui a mené à est-ce que des collectifs se mettent en place, c'était aussi le fait qu'ils promettaient de ne pas utiliser du bois issu de coupe rase et que des documentaires ont prouvé le contraire. Est-ce que là-dessus, il faut venir plus réguler plus fortement ces industries ?
Non, moi je crois que, je vous l'ai dit tout de suite, moi j'ai demandé tout de suite à Fargebois ces ratios. Moi j'étais technicien pour un groupe coopératif agricole pendant 42 ans. Je suis à la retraite depuis le 1er avril. Donc, et je suis pour l'agronomie. Et donc c'est pour ça que et mes études scientifiques, et je travaillais dans la génétique, m'ont permis dans mon rôle de président de communauté de communes de traiter les choses avec des fondements. Et des fondements scientifiques et qui respectent l'environnement. Et je vous répète ce ratio, 30% de la croissance annuelle. Ça ne s'appelle pas de la déforestation. Ça s'appelle de l'exploitation raisonnée.
Mais au-delà de ça, dans ces 30%, il y a aussi des coupes rases.
Et on sait l'impact de ces coupes rases. Oui, mais aujourd'hui, les résineux, et je vous ai bien différencié les choses par rapport aux feuillus, sur les résineux, il faut faire des coupes rases. Mais il faut replanter. Et quand on replante, et les exploitants forestiers s'en sont rendus compte, il ne faut pas replanter que du résineux. Et c'est ce qui est en train de se passer sur les boisements. Aujourd'hui, ils se replantent des populations qui sont partagées entre le feuillu et le résineux. Donc, il ne faut pas avoir peur de la coupe rase. Au contraire. Et je pense que, justement, tous ces gros Douglas qui sont aujourd'hui en train d'épuiser les sols sur le plateau de Millevaches, il faut les couper. Et il faut trouver des scieries qui puissent les exploiter. Il faut installer des industriels qui puissent les exploiter.
Mais alors moi je comprends bien, vous voulez faire table rase de ce modèle des résineux à 100% pour pouvoir aller vers autre chose, quelque chose qu'on avait plus avant avec des essences voilà. Différentes, c'est ça? Mais comment, parce que là de ce que je comprends c'est que c'est au bon vouloir des exploitants, comment on peut les contraindre à ça puisqu'on sait que c'est un modèle qui est important pour le maintien de la biodiversité dans notre région.
Non, c'est pas au bon vouloir des exploitants. Il y a un schéma national et posé par une loi et ils sont obligés de répondre donc à un reboisement cadré par la loi. Et c'est pour ça d'ailleurs que la loi a cadré les choses à ce niveau-là. Et aujourd'hui, tout est réglementé, tout est surveillé par la DDT, par monsieur le préfet. Les choses sont extrêmement par l'OFB l'Office de la biodiversité, français de la biodiversité. Il faut les choses sont extrêmement réglementées et suivies. Il y a forcément donc quand vous coupez un bois, il faut faire une demande de coupe. Et quand vous reboisez, il faut faire une demande de reboisement et avec un plan de gestion. Et ces plans de gestion sont respectés, et c'est normal. Il y a une réglementation, c'est contrôlé, et il le faut, mais ils sont contrôlés. Les gens ne font pas n'importe quoi, et heureusement, on est revenu sur les choses, et c'est très bien, c'est ça une société. La société, elle se doit de bouger, d'évoluer, et aujourd'hui, je crois qu'il faut savoir accepter dans les résineux ces coupes rases pour remettre en place des reboisements qui sont bien meilleurs pour notre plateau de Millevaches, d'ailleurs, et autres.
Justement, vous parlez du plateau de Millevaches. Moi, j'aimerais vous poser une dernière question sur l'environnement. Ça serait sur la gestion de l'eau. Parce que vous ne devez pas être sans savoir que l'été dernier, il me semble, il y a eu des... Et même les étés d'avant, encore, il y a eu des communes au niveau du plateau, par exemple, qui n'ont pas eu accès à de l'eau. Et donc qui ont dû faire venir de l'eau par citerne pour les habitants. Vous, en tant que député de la Corrèze, qu'est-ce que vous conseillez et qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour éviter cette crise de l'eau?
Alors moi, je l'ai dit depuis longtemps, avant même d'être député, puisque j'ai été le premier président de l'intercommunalité corrézienne à lancer un schéma directeur sur l'eau, pour qu'au niveau de nos communes, on puisse, puisqu'en tant que maire, je connaissais cette problématique, Et cette inquiétude au quotidien quand vous êtes maire avec un réseau d'eau en régie communale, que vos citoyens aient l'eau qui coule au robinet. Parce qu'après, si l'eau ne coule plus au robinet, les gens savent que c'est la régie communale de l'eau. Et là, c'est la faute du maire parce qu'il n'a pas pris les dispositions. Mais malgré les changements climatiques, vous savez, on est vite accusé. Donc, moi... force de proposition, d'anticipation, ce que j'ai toujours fait, et de travailler, et dans le bon sens pour ma commune, pour ma communauté de communes, pour ma Corrèze, j'ai lancé un schéma directeur. Dans le schéma directeur, j'ai proposé donc au bureau d'études la chose suivante. On est sur le plateau de Millevaches, avec la vallée de la Dordogne, avec la vallée de la Vézère. On est un département qui a le plus de retenue pour l'hydroélectricité. Aujourd'hui, sur ces grandes rivières, on a un débit d'eau qui est réservé pour la biodiversité. Et c'est normal. Pourront-on penser, alors qu'on est sur le renouvellement des concessions hydroélectriques, et c'est ce que j'ai proposé dans des amendements à l'Assemblée nationale, qu'il y ait un débit réservé pour l'eau potable? Moi, les études du schéma directeur nous ont prouvé que nous, on a par exemple le barrage de Marcillac sur les 20 communes autour d'Aigleton et le barrage donc sur la Luzège de Saint-Pantaléon de la Plaume. On s'est rendu compte qu'au pied des digues des barrages, l'eau, même l'été, dans les fortes périodes de canicule, est à 8 degrés. Donc, une température, même en période de canicule, qui correspond à la qualité d'une eau et sanitairement. Donc l'idée, c'est réserver un débit d'eau pour l'eau potable dans l'ensemble des barrages. Prenez le plateau de Bord, plateau bortois, qui a été le plateau le plus sinistré lors des dernières canicules. On a la troisième retenue d'Europe, avec des profondeurs où l'eau, à mon avis, au pied de la digue, est même inférieure en dessous 8 degrés. Ça mérite d'être vérifié, mais c'est à peu près certain, parce que vous voyez sur le barrage de Marcillac, elle est à 8 degrés. De canicule. Je pense que pomper l'eau dans les barrages, avoir un débit réservé d'eau potable, on n'a même pas besoin de construire de bassines chez nous, soyons pas inquiets, on les a. On a des retenues naturelles, hydrauliques, avec une vallée de la Dordogne industrialisée qui est patrimoine de l'UNESCO. Donc, un peu de bon sens, vous voyez, moi ce que j'ai proposé dans le schéma directeur, je l'ai proposé au schéma départemental, je l'ai proposé à l'Assemblée nationale. Et vous voyez, des propositions comme ça. Eh bien, c'est des propositions d'un élu de terrain, d'un élu pragmatique, de bon sens, et pas d'un politicard.
Eh bien, merci beaucoup, Francis Dubois, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes député sortant, ex-Les Républicains, et maintenant sous la bannière Un Courage, point d'exclamation.
Du courage, point d'exclamation. Je vous remercie également, parce que on voit aujourd'hui que le temps de parole et pas trop respecté entre donc François Hollande et moi-même. Et je vous remercie beaucoup d'être venu m'interviewer, de me laisser ce temps de parole, et que je sais que vous saurez l'équilibrer également avec François Hollande. Et c'est ça la vraie démocratie, un temps de parole partagé.
C'est notre travail,
et bonne journée à tous.
Merci à vous d'avoir écouté cette interview. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos entretiens avec les candidats sur le site internet de Bram FM.